tous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénit. Amen. Je suis tellement content d'avoir eu un mail au travers de révélationbible.com d'un homme, en fait, que je ne connais pas, qui s'appelle Philippe, qui vit en Suisse, qui est l'époux de Laurence, une petite sœur que j'ai connue, elle avait 12-13 ans à l'époque, c'était dans les années 69-70, par là autour, et je suis tellement content, je suis sûr que ce soir, il va écouter le message « Dieu te bénisse, Philippe, avec ton épouse Madeleine, et puis tous tes enfants, ils en ont une ribambelle, et je crois qu'il y en a des grands maintenant, gloire à Dieu. » Notre petite sœur Laurence est partie vers le Seigneur, et puis il m'écrit que Dieu a permis qu'il puisse rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelle Madeleine. Les Madeleines, elles sont extraordinaires. Il a connu notre Madeleine à nous, ma maman, il l'a connue. Il me dit que c'est avec elle que pour la première fois il a parlé en langue. Enfin voilà, c'est tous des souvenirs qui reviennent. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On ne sait pas par qui on est écouté, hein. Ça fait drôle. Et vraiment, Dieu dirige bien les choses. On avait reçu une prophétie qui nous disait qu'on allait retrouver, qu'on allait avoir des contacts, qu'on allait avoir des rencontres cette année. Et c'est vrai que ça n'a pas arrêté. Et là encore, 2 mois avant la fin de l'année, eh bien, encore rencontrer ce frère, ça fait vraiment très plaisir. On va descendre certainement au début de l'année prochaine avec Michou pour rencontrer toute cette équipe. Et alors, sœur Hilda est toujours de ce monde. Je vous ai parlé de la sœur Hilda, hein, la sœur qui disait toujours « me vois-tu ». D'ailleurs, je dis toujours, moi-même, toujours « me vois-tu ». Ça m'est resté depuis Hilda, je le dis toujours, hein, 40 ans après, « me vois-tu ». « Me vois-tu ?» Elle disait tout le temps ça. Il fallait prendre la victoire, elle disait. Mais ça, c'était des choses qui m'ont aidé, tellement aidé. Il faut prendre la victoire. Au début de ma vie chrétienne, eh bien, que Dieu la bénisse. Je ne sais pas si elle peut écouter à Internet là où elle se trouve, mais en tout cas, si elle entend, eh bien, que Dieu la bénisse, ainsi que ses sœurs. Il y avait Annette, il y avait Rosemée, il y avait plein de gens comme ça. Bon, on va retrouver tout ce petit monde, c'est merveilleux. Je suis très content. Alors, ce soir, on va regarder Matthieu, toujours 5, verset... Je crois 4. On est dans les béatitudes. Et si Dieu permet, on va étudier tout le sermon sur la montagne pendant l'hiver. Peut-être je ne ferai pas systématiquement toutes les réunions le sermon sur la montagne, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout pendant cet hiver. D'ailleurs, maintenant, alors là, on en est à Matthieu 5, 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Ça, on a vu. La dernière fois, non, c'est pour ce soir. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, qui pleurent, car Dieu les consolera. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Il y a plusieurs versions. Il y a heureux ceux qui pleurent. Vous avez d'autres versions qui disent heureux les affligés. Et il y en a même une que j'aime beaucoup qui dit heureux les malheureux. Alors là, je trouve que c'est formidable. Heureux les malheureux, parce que je trouve que vraiment là, ça fait bien ressortir le paradoxe. Heureux les malheureux. C'est vrai, c'est magnifique. Et Jésus dit, même dans Luc, au chapitre 6, il dit plutôt « Heureux ceux qui pleurent maintenant ». Maintenant, il rajoute. Alors, de quel malheur peut-il s'agir? Heureux ceux qui sont malheureux. De quel malheur peut-il s'agir? Ou quels sont les malheurs qui ont le pouvoir de nous faire découvrir les joies de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on peut être heureux? Quels sont ces malheurs-là? Eh bien, évidemment, le premier malheur auquel on peut penser, c'est le malheur de perdre quelqu'un qu'on aime, un être cher, ou un ami, ou voilà, et ça fait pleurer. Mais est-ce que c'est vraiment à cette sorte de chagrin-là que Jésus fait référence? Je ne pense pas. On peut aussi pleurer parce qu'on a perdu son innocence, on peut pleurer parce qu'on a perdu sa dignité, on peut pleurer. Mais je crois vraiment que Jésus-Christ parle ici du chagrin, de la tristesse, de la repentance. C'est la deuxième étape de la bénédiction. Nous avons entendu Jésus parler, nous dire quelle était la première étape, la reconnaissance de notre pauvreté. Vous vous rappelez, je vous ai enseigné sur ces choses-là la dernière fois, la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle. Alors pleurer et éprouver de la tristesse à cause de cette pauvreté. Pleurer, c'est une chose, mais quand c'est à cause de cette pauvreté, c'est autre chose. on pleure à cause de notre pauvreté spirituelle. Vous savez, depuis quelques années, moi j'en ai vu des choses. Ça fait 40 et quelques années, 42 ans que je suis converti, j'en ai vu des modes. Et pour ceux qui sont tout frais et pas secs derrière les oreilles, encore comme on dit, par chez nous en Suisse, qui viennent de se convertir et qui ne savent pas ce qui s'est passé autrefois, je peux vous dire, on en a vu des modes. Et une des modes les plus flagrantes dans les années 70, c'était l'évangile de l'abondance. Alors c'est tout juste si tu n'étais pas chrétien, si tu étais pauvre. Hein. C'était terrible ça. Et puis ensuite, on a vu l'évangile de la louange. Alors c'était tout dans la louange. Mais c'est pas des erreurs, mais ça a été trop excessif. Je me rappelle, il y avait un livre extraordinaire, il est toujours extraordinaire, qui s'appelle « De la prison à la louange ». C'est vrai ce qu'il y a là-dedans, mais on en a fait une espèce de doctrine, et maintenant c'est toujours gloire, gloire, louange, 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 et maintenant on a des immenses réunions de louange, où on est là, à louer le Seigneur toujours, et à se réjouir dans le Seigneur. Et puis alors après, inévitablement, c'est devenu l'évangile du positivisme, hein. Alors, c'est tout juste si on ose, n'est-ce pas, faire autre chose que de sourire. Alors, il y en a, c'est la paralysie faciale continuelle. Ils sont tout le temps en train de sourire comme ça, avoir une gaieté débordante, un peu exubérante. Cependant, quand même, Jésus dit « Malheur à vous qui riez maintenant », Luc 6, 25. Pourquoi ? Nous aussi, on devrait pleurer sur le mal qui règne dans ce monde. On devrait pleurer sur ce mal qui règne dans ce monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Trop de chrétiens pleurent sur leur pauvreté. Trop peu de chrétiens pleurent sur leur pauvreté. Et Jésus, qui lui n'avait jamais péché, qui n'avait aucune pauvreté, il pleurait. Il pleurait sur les autres, sur les péchés des autres. Il pleurait sur les conséquences de ces péchés-là, c'est-à-dire le jugement de Dieu, la mort. Il pleurait sur les villes qui ne voulaient pas le recevoir. Il pleurait. Et nous. Au psaume 119, 136, il est écrit « Des larmes ont ruisselé de mes yeux car on ne garde pas ta loi. » Prophète qui pleure. Un jour, Dieu a parlé à Ézéchiel, vous trouvez ça dans Ézéchiel 9, 4, et il lui dit que ceux qui lui ont été fidèles sont ceux qui ont gémi et qui se sont plaints à cause de toutes les abominations qui se commettent dans Jérusalem. Des gens qui pleurent à cause des péchés. L'apôtre Paul, lui, pleurait à cause des faux docteurs, des médiums, enfin ceux qui se font appeler prophètes et qui ne le sont pas, et qui se conduisent en ennemis de la croix. Il dit « Je pleure ». Il pleurait dans cette église naissante. Il pleurait, Philippiens 3, 18. « Heureux ceux qui pleurent », nous dit Jésus. Mes frères et sœurs, chacun de nous, on aurait aussi besoin de pleurer sur nos propres erreurs, nos propres péchés. Je crois que les chrétiens d'aujourd'hui mettent trop l'accent sur la grâce, et en faisant cela, en mettant d'une façon exagérée l'accent sur la grâce, ils minimisent la gravité du péché. Je crois ça. Pourquoi si peu de chrétiens évangélisent-ils ? Pourquoi ? Pourquoi tant de chrétiens n'osent pas parler de Jésus au travail, à l'école ? On dirait que c'est interdit. Oui, mais attendez, si l'apôtre Paul avait fait seulement ce qui était permis, il n'aurait jamais été en prison. Hein ? Pourquoi est-ce que tant de chrétiens n'osent même pas parfois, dans leur propre famille ? Ben, c'est simplement à cause de ça, parce qu'ils minimisent la gravité du péché. Tous ces gens sont des pécheurs et Jésus pleurait sur les pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'il savait le jugement qui attend ces gens. Il avait conscience. Ceux qui pleurent, Jésus dit, ils seront consolés. Car la plus grande consolation, elle vient de Dieu qui pardonne les péchés. C'est ça la grande consolation, de la plus grande tristesse pour quelqu'un qui connaît le salut en Jésus-Christ. Dieu vient pardonner les péchés de quiconque pleure sur ses propres péchés. Dieu vient consoler celui qui pleure sur quiconque pleure sur les péchés de son pays, de sa famille, des terriens. Et ce sont des larmes que Dieu recueille précieusement. Les pleurs de ses enfants qui ont un cœur pour tous ces gens qui se perdent. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, ils ont annoncé que le Messie qui viendrait, et il est venu, serait un consolateur, quelqu'un qui panserait les plaies de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous trouvez ça dans Ésaïe 40, vous trouvez ça dans Ésaïe 61, 1, etc. Et quand Jésus a été présenté au temple, il y avait là un prophète qui s'appelait Siméon. Je pense que les enfants, vous avez tous étudié ça aussi. Et c'est écrit que ce prophète-là, il soupirait après la consolation d'Israël. Et ça veut dire quoi, la consolation d'Israël? Ce peuple avait besoin de se repentir, parce que s'il était dans l'état où il était, c'était parce qu'il avait péché. Et pour qu'il puisse être consolé, il fallait qu'il se repente. Et quand il a vu Jésus, il a dit, maintenant je peux mourir, mes yeux ont vu le salut. Voilà de quels pleurs Jésus parle dans les Béatitudes. Il ne parle pas de ceux qui pleurent parce qu'ils sont tombés et puis qu'ils sont écorchés les genoux. Il ne parle pas de nos différents chagrins, voilà, qui sont le lot de tous les terriens, si vous voulez, de perdre un être cher, de ceci, de cela. Non, ce n'est pas de cela dont il parle, ce sont des pleurs différents. Et la consolation que donne Jésus, elle ne sera complète, mes frères et sœurs, que quand le péché ne sera plus, c'est-à-dire quand il aura véritablement détruit et le diable, et les suppôts de Satan, la terre et tout ça. Et alors la Bible nous dit dans Apocalypse 7, 17, il essuiera toute larme de nos yeux. C'est-à-dire que plus de péché égale plus de larmes. Et puis Jésus continue, il dit, heureux ou en marche, ceux qui sont doux. Ou humbles de cœur, ça dépend des versions. Parce qu'ils hériteront la terre. Le mot humble, ça peut être traduit par doux, ça peut être traduit par plein d'égards, ça peut être traduit par courtois. Et mes frères et sœurs, tous ces mots-là, ils supposent une maîtrise de soi. Parce qu'on ne peut pas être courtois si on n'est pas maître de soi. On ne peut pas être plein d'égards, doux, humble, si on n'est pas maître de soi. Et Jésus a dit lui-même, je suis doux. Et ça ne signifie pas, je suis faible, je suis efféminé, non, il était doux et humble de cœur, et il nous faudrait savoir de quelle sorte de douceur sont animés les doux à qui Jésus promet sa bénédiction. C'est quoi cette douceur alors? Eh bien, cette troisième béatitude, heureux les doux, elle s'adresse d'abord à ceux qui pleurent, ceux de la bénédiction précédente, à ceux qui pleurent. Pourquoi ils pleurent? Je ne vais pas vous le redire, je vous l'ai déjà dit. Et cette béatitude, elle est suivie par une autre béatitude, par une parole qui est à l'attention de ceux qui ont faim et soif de justice. Le doux, le vrai doux, c'est celui qui est donc honnête avec lui-même. C'est-à-dire, il se sait pauvre spirituellement, il pleure sur son propre péché, il pleure sur le péché des autres. Un vrai doux, il reconnaît son propre péché, sa pauvreté spirituelle, devant les autres et pas seulement devant Dieu. Parce que c'est une chose réelle que je vais vous dire là. En règle générale, on aime mieux se condamner soi-même devant Dieu que de laisser les autres le faire. Le vrai doux, c'est celui qui a tellement conscience de sa pauvreté spirituelle qu'il est étonné même que Dieu lui veuille du bien et que les autres puissent avoir une bonne opinion de lui. Dieu nous veut du bien même quand il nous châtie. Et cette idée-là, c'est ça qui rend doux. D'avoir cette attitude, cette position à propos de soi-même. C'est ça qui rend doux, c'est ça qui rend humble de cœur, c'est ça qui rend courtois, c'est ça qui rend sensible, c'est ça qui rend patient. C'est d'avoir cette vision-là. Ceux qui sont ainsi, Jésus dit, ils hériteront de la terre. Dans notre temps, on pense qu'un doux, c'est celui qu'on malmène, c'est celui qu'on écrase, c'est le faiblard, hein, même dans la cour de récréation, hein, c'est vrai, celui qui est faible. Voilà, c'est un doux, c'est un gentil, voilà. On pense que c'est les durs qui s'imposent, c'est les durs qui réussissent, il faut qu'ils jouent des coudes. Frères et sœurs, ce n'est pas par la force qu'on va hériter, qu'on va pouvoir prendre possession de notre héritage spirituel en Jésus-Christ. Ce n'est pas par la force, mais c'est dans la faiblesse. L'apôtre Paul le dit, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Quelle sorte de faiblesse! Quand les méchants semblent triompher, les faibles, selon Dieu, sont animés par une confiance totale en Dieu. Si vous lisez le psaume 37, vous allez voir, c'est étonnant. On dirait que Jésus s'inspire du psaume 37 pour faire son sermon sur la montagne. Tous les pasteurs à l'heure actuelle s'inspirent d'un texte biblique pour préparer une prédication. Et on dirait que Jésus s'est inspiré du psaume 37 pour faire sa prédication. Lisez ce psaume 37. Vous allez voir qu'il est tout à fait dans l'esprit des béatitudes. Ne t'irrite pas contre les méchants. C'est toi qui hériteras le pays. Si tu es doux, si tu es calme, si tu es compatissant, si tu es... Alors les impies, ils peuvent se vanter, ils peuvent chercher à vous en imposer, à vous impressionner, mais ils ne possèdent pas réellement ce dont ils se targuent. Non, 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 monsieur, pas du tout. Et les humbles et les doux qui semblent apparemment dénués de tout, c'est à eux que tout appartient réellement. Ils jouiront de la terre parce que la terre, en réalité, elle appartient à leur père. Le diable l'a volée, mais pour un temps seulement. Et frères et sœurs, on en est au temps du renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire que bientôt, nous allons être aspirés dans les lieux célestes. On va prendre possession bientôt des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Alors vous voyez, le chemin que Jésus nous propose jusque-là, c'est un chemin qui est tout à fait à l'opposé de celui des terriens. Paul, il enseignait cela, mais il le vivait. On va lire 2 Corinthiens 6, 4, 10. 2 Corinthiens 6, 4, 10, et je vais vous lire dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. Écoutez ça. À tous égards et en toutes circonstances, nous nous efforçons de démontrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les différentes épreuves qui nous assaillent. Nous endurons les détresses les plus diverses, les privations, l'angoisse, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, les nuits blanches, les jeûnes. Nous cherchons à recommander notre ministère par une vie pure, par une connaissance spirituelle de la vérité, par notre attente patiente de l'heure de Dieu, par la bonté, l'amabilité, par l'esprit de sainteté et une action inspirée par le Saint-Esprit, par un amour sans feinte, ni affectation, par la proclamation de la parole de vérité, par la manifestation de la puissance de Dieu. Nous combattons avec les armes offensives et défensives de sa justice. Nous sommes honorés ou humiliés, calomniés ou loués. On nous couvre d'opprobre ou on nous porte au nu. On nous traite d'imposteurs et cependant nous disons la vérité. On nous ignore comme des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On dit ils sont à l'article de la mort et voici nous sommes toujours en vie. On pense voilà des gens que Dieu châtie et cependant nous ne succomberons jamais. On nous accable de tristesse, nous sommes toujours joyeux. Nous passons pour des menteurs et pourtant nous passons pour des mendiants et pourtant nous enrichissons tant d'autres. Nous avons l'air d'être dénués de tout alors que le monde entier nous appartient. Vous voyez l'apôtre Paul, comment il pensait? Eh bien, c'est comme ça que pense un doux. C'est comme ça que pense un disciple de Jésus. Et ça me fait du bien, ça me remet sur les rails. Amen, pas vous? Pauvre, pleurant, doux, humble. C'est 3 des 4 attributs que Dieu aime voir chez ses enfants. Je vous ai dit que les 4 premières paraboles, c'était notre relation avec Dieu, puis les 4 autres, c'était avec les gens, notre prochain. Et là, nous avons vu 3 des 4 attributs que Dieu aime voir chez ses enfants. Pauvre, pleurant, doux. Mais vous avez bien compris. Pauvre, ça signifie pas mendiant. Pleurant, ça signifie pas pleurnichard. Doux, ça signifie pas efféminé. Ici-bas, on a des grandes certitudes. Nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas, j'ai dit ça l'autre soir à Charef et à sa sœur, nous ne sommes pas des êtres humains qui essayons d'être spirituels. Non? Les gens qui sont des humains qui essaient d'être spirituels sont des religieux qui se fourvoient tout le temps parce qu'ils essayent d'observer des lois par leurs propres efforts. Nous ne sommes pas des êtres humains qui essayent d'être spirituels. Nous sommes des esprits élus qui apprennent à vivre humainement. C'est très différent. Nous sommes des esprits qui apprenons à vivre humainement. Mais ça nous est difficile parce qu'on est des esprits, on n'est pas des êtres humains réellement. Je vous l'ai toujours dit, on n'est pas de ce monde. Nous sommes des esprits élus qui apprenons à vivre humainement et c'est très différent. C'est pourquoi le renoncement à soi, qui est tellement... C'est haïssable, point de vue des gens du monde. Eh bien, ce renoncement à soi-même, c'est le chemin qui conduit à la véritable possession, domination de ce monde. En marche, en progression. Heureux les doux, les humbles, les patients. Ceux que les terriens regardent comme des faiblards, comme des pauvres minables, comme des sans ambition. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un qui me dit, oui, mais enfin, j'ai dit, mais moi, j'ai pas des grandes ambitions. Moi. Ça les étonne quand on dit ça. Non, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Et puis, la volonté de Dieu pour aujourd'hui, je la connais, mais pour demain, je sais pas encore, plus ou moins. Je fais une petite idée, mais il faut être soumis. Dieu, il pose un regard différent sur nous autres. Alors, on peut relever notre tête et on peut se réjouir. Les terriens nous regardent d'une autre façon. Tant pis pour eux, ils se trompent. Ils croient qu'on est abandonné de Dieu alors que ce n'est pas vrai. Ils croient qu'on est des mendiants alors que ce n'est pas vrai. Ils croient que ceci, ils croient que ceci. Tout ce qu'ils croient, c'est faux. Nous, nous croyons dans l'amour de notre Dieu pour nous. Et d'un moment à l'autre, on va être, comme je vous disais tout à l'heure, aspiré dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur. Et quand on reviendra avec lui, 7 ans après, eh bien, ça sera pour régner. Et là, il n'y aura aucun obstacle. Aucun. Il n'y aura pas à discuter et à défiler entre la République et la Bastille pour savoir si c'est nous qui dirigeons ou pas. Ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Et ça sera une bonne chose. Amen. Ça sera une bonne chose. Mais avant que nous puissions remplir ces fonctions-là, eh bien, il nous faut d'abord apprendre à former notre caractère afin de pouvoir être dignes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous aider à comprendre ces choses. Et avec humilité, avec simplicité de cœur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions vivre ces choses jour après jour, sans nous décourager s'il arrive parfois que nous fassions un écart ou que nous nous trompions. Merci Seigneur Jésus de nous reprendre et de nous bénir et de nous conduire et de nous élever. Si ce n'est pas toi qui nous élèves, nous ne voulons pas être élevés. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de nous aider à être toujours fidèles et à marcher avec toi avec la crainte dans le cœur, la crainte de te déplaire. Merci Jésus d'étendre ta main sur ceux à qui nous pouvons rendre témoignage, de permettre qu'ils puissent recevoir ce salut, le prendre et le vivre. Dans le nom de Jésus, nous te prions, mon Dieu. Amen. Amen.